VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 31 janvier 2023. Visite historique du pape François demain mardi en République démocratique du Congo, première étape d'une tournée africaine. Kinshasa est mobilisé pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife.
Le peuple congolais attend l'arrivée de sa sainteté, le pape François, avec impatience, avec enthousiasme et surtout avec espérance.
Le pape arrive donc le 31 au Congo, mais aujourd'hui c'est bel et bien le 30. Nous retrouverons le cardinal Fridolin Ambongo que vous venez d'entendre, archevêque de Kinshasa, dans la partie magazine. En Tunisie, l'opposition appelle à l'union pour exiger le départ du président Kais Saied après un second réveil électoral. En Afrique du Sud, le juge dans le procès de l'ex-président Jacob Zuma se récuse. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté Israéliens et Palestiniens à un retour au calme lors de sa visite lundi en Israël. Au Pakistan, au moins 47 morts dans une explosion à l'intérieur d'une mosquée de Peshawar. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco, 22 millions de personnes sont menacées par la faim dans la Corne de l'Afrique selon l'ONU. Et la page des sports, le plateau des demi-finales du CHAN Algérie 2022 avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. Le pape François entame demain mardi un voyage en RDC et au Soudan du Sud, deux pays minés par des conflits. À Kinshasa, les préparatifs pour l'accueil du souverain pontife vont bon train. Le point avec Abdourahman Dia.
La visite du 31 janvier au 5 février en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud va mener le pape, âgé de 86 ans, dans des endroits où les catholiques représentent environ la moitié de la population et où l'Église est un acteur clé dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi que dans les efforts de renforcement de la démocratie. Le voyage devait avoir lieu en juillet dernier, mais a été reporté en raison d'une douleur au genou dont souffrait le pape François. La RDC, qui est le deuxième plus vaste pays d'Afrique et qui compte environ 90 millions d'habitants, reçoit sa première visite d'un pape depuis que Jean-Paul II, en 1985, avait visité le pays qui s'appelait alors Zaïre. Le pape François avait prévu de visiter la ville orientale de Goma, mais a dû y renoncer suite à la résurgence des combats entre l'armée et le groupe rebelle M23. Le pape restera donc dans la capitale Kinshasa, mais y rencontrera des victimes des violences de l'Est. Le Congo est une urgence morale qui ne peut pas être ignorée, a déclaré l'ambassadeur du Vatican en RDC, Monseigneur Ettore Bolestrero. Le pape restera en RDC jusqu'à vendredi avant de se rendre à Juba, la capitale sud-soudanaise.
Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, envisage de retirer les troupes de son pays de la mission de stabilisation de l'ONU au Mali, la MINUSMA, plus tôt que prévu, car dans les conditions actuelles, elles ne peuvent pas remplir leur mandat, a-t-il déclaré au journal Süddeutsche Zeitung, paru ce lundi. L'Allemagne a annoncé en novembre que les troupes seraient retirées en mai 2024. Berlin reproche à Bamako d'empêcher ses militaires de faire voler leurs drones qui assurent leur sécurité aérienne lors de leur déplacement en dehors des bases de l'armée. Libération surprise d'un Soudanais accusé du meurtre d'un diplomate américain en 2008 et qui risquait la peine de mort, Abdel Raouf Abou Zeid, qui a été reconnu coupable du meurtre du diplomate américain John Granville, a été libéré par la Cour suprême du Soudan deux ans après la conclusion d'un accord il y a donc deux ans entre le gouvernement soudanais et la famille du diplomate américain. Du sud de l'Éthiopie au nord du Kenya, en passant par la Somalie, 22 millions de personnes sont menacées par la faim, victimes d'une sécheresse historique débutée fin 2020 et amenée à durer dans les prochains mois selon l'ONU. Ce chiffre a presque doublé depuis début 2022 lorsque 13 millions de personnes ont été confrontées à la faim dans la Corne de l'Afrique. En Afrique du Sud, le juge dans le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain, Jacob Zuma, s'est récusé. Il s'occupait de cette affaire depuis plusieurs années, ce qui risque de faire repartir l'affaire depuis le début. Claire Morejibou.
J'en suis arrivé à la conclusion que je dois me récuser du procès. C'est ce que dicte la bonne administration de la justice, la Constitution et ma conscience, a déclaré le juge. Pete Kern au tribunal de Pietermaritzburg lors d'une audience retransmise à la télévision. Le juge Pete Kern, qui préside l'affaire depuis plusieurs années, a annoncé qu'il se mettait en retrait suite à la décision de rejeter la demande de M. Zuma visant à évincer le procureur Bill Donner. M. Zuma avait accusé le procureur Donner d'avoir divulgué des documents médicaux confidentiels aux médias. Âgé de 80 ans, Jacob Zuma est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français de défense Thales dans une affaire vieille de plus de 20 ans. Il est poursuivi pour 16 chefs d'accusation, dont escroquerie, corruption et rackets. Le procès de M. Zuma avait débuté en mai 2021 et a déjà eu de nombreux reports. Et retard.
Toujours en Afrique du Sud, un anniversaire dans la banlieue pauvre de la ville portuaire de Guebera a tourné au carnage dimanche. Des hommes armés ont tiré sur les invités. 8 personnes ont été tuées, 3 blessées selon un communiqué de la police diffusé lundi qui précise que le propriétaire de la maison est parmi les personnes décédées. Les motifs restent inconnus ce lundi. Dengue, chikungunya, lèpre... L'OMS a appelé aujourd'hui à investir davantage dans la lutte contre les maladies tropicales négligées dont souffrent plus de 1,6 milliard de personnes. Ces pathologies délaissées ne touchent que les pays les plus pauvres du monde. 16 pays représentent 80% du fardeau mondial, dont la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria et la Tanzanie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Israël, deuxième étape de sa tournée au Moyen-Orient, entamée hier dimanche en Égypte. Le chef de la diplomatie américaine veut tenter d'apaiser les tensions en pleine flambée de violence israélo-palestinienne. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le secrétaire d'État américain rencontre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, puis le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et le président israélien Isaac Herzog. Anthony Blinken va aussi discuter avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas. Avant son départ pour cette visite de 2 jours à Jérusalem et en Cisjordanie, le chef de la diplomatie américaine a eu des entretiens ce lundi au Caire avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. M. Blinken a déclaré qu'il est impératif que les belligérants s'efforcent de désamorcer les tensions. La semaine dernière, un raid de l'armée israélienne sur la ville de Jenin en Cisjordanie a fait 10 morts et une fusillade palestinienne près d'une synagogue de Jérusalem-Est a tué 7 Israéliens. M. Blinken réaffirme que Washington est un fervent partisan de la solution négociée à 2 États, mais le dernier cycle de pourparlers parrainé par les États-Unis sur la fondation d'un État palestinien aux côtés d'Israël a échoué en 2014.
Au Pakistan, une explosion survenue ce lundi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar a fait au moins 47 morts. Plus de 150 personnes ont été blessées selon des sources hospitalières. Les détails avec Mohamed Oumfa.
L'explosion s'est produite à l'heure de la prière dans ce lieu extrêmement sensible de la ville, non loin de la frontière avec l'Afghanistan. Selon la police, l'explosion est survenue au 2e rang des fidèles assemblés pour la prière. Une opération de secours a immédiatement été lancée pour dégager les personnes prises au piège des décombres. Des équipes de déminage sont sur place pour examiner la possibilité d'un attentat suicide. Le gouvernement a placé l'ensemble du pays sous haute alerte. Selon la chaîne CNN, les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité de l'explosion. Sarbakaf Mohammad et Omar Mukarram Kourasani, deux responsables des talibans pakistanais connus sous le nom de Tehrik-e-Taliban, ont déclaré que c'est une vengeance pour la mort l'année dernière de Khalid Khorasani, un de leurs militants. Le TTP est une organisation désignée terroriste par les États-Unis et qui opère à la fois en Afghanistan et au Pakistan.
L'Ukraine a démenti aujourd'hui que les troupes russes progressaient, comme l'affirme Moscou, près de la ville de Vouglida, dans l'est du pays. Nos unités continuent d'avancer, des unités se sont établies dans l'est et le travail se poursuit dans les environs, avait affirmé dans la matinée le chef de l'occupation russe dans la région de Donetsk, Denis Pushilin, cité par les agences russes. Un porte-parole de l'armée ukrainienne en charge de cette zone, Yevgeny Irine a lui assuré que les attaques russes de la zone ont échoué. Et puis, forte du succès de la première journée de mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites en France le 19 janvier dernier, les organisations syndicales ont appelé mardi à une nouvelle grève, journée de grève qui devrait se traduire notamment par des perturbations dans les transports publics. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué que 11 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés donc demain mardi, dont 4 000 à Paris. Le gouvernement reste déterminé à faire passer son projet de réforme des retraites qui prévoit notamment le report de l'âge légal des départs de 62 à 64 ans en 2030. L'Assemblée nationale a débuté ce lundi l'examen du texte après la présentation la semaine dernière du projet en Conseil des ministres. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Mfa.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré dimanche que la crise de l'électricité dans le pays continue de miner la croissance économique et les investissements. Les délestages portent préjudice aux entreprises, perturbent les ménages, compromettent la fourniture des services sociaux et affectent la sécurité et le bien-être de la population, a fait remarquer M. Ramaphosa lors d'une réunion du conseil exécutif de son parti, l'ANC. La Banque islamique de développement va mobiliser 7 milliards de dollars pour financer des projets agro-industriels en Afrique au cours des 5 prochaines années, a annoncé vendredi son président lors de la clôture du forum de Dakar sur la souveraineté alimentaire. La banque compte ainsi financer des projets dans la chaîne de valeur rizicole, maïs et manioc qui serviront à long terme de modèle pour mener à l'autosuffisance alimentaire en Afrique, a-t-il précisé. 22 millions de personnes sont menacées par la faim dans la Corne de l'Afrique, victimes d'une sécheresse historique débutée fin 2020 et qui est amenée à durer dans les prochains mois, selon un nouveau rapport du Programme alimentaire mondial. Dans cette région où la population vit majoritairement de l'élevage et de l'agriculture, près de 5,6 millions de personnes se trouvent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire aiguë, selon l'ONU.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacou.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football pour commencer avec le CHAN en Algérie et on connaît l'affiche des demi-finales.
Oui, Madagascar affronte le Sénégal et le Niger fait face au pays hôte, l'Algérie. Une première demi-finale pour les Nigériens et les Malgaches qui n'en finissent plus d'étonner. Les barrières locaux, invaincus jusqu'à présent, ont obtenu leur qualification au terme d'un large succès 3-1 sur le Mozambique. Le MENA local, qui est à sa quatrième participation, a dompté le Ghana 2-0. Les demi-finales auront lieu demain, mardi.
Cyclisme à présent avec l'épilogue de la Tropicale Amissa Bongo.
Cette 16e édition a été remportée par le Français Geoffrey Soupe de l'équipe Total Energy, qui a repris le maillot jaune à l'issue de la 6e étape. Il devance au classement général l'Algérien Hamza Amari et le Mauricien Christopher Rougier-Lagane. Les Érythréens Nathanael Berhane et Dawit Yeman sont classés respectivement 4e et 5e. Écoutons l'heureux vainqueur.
Elle est d'autant plus belle quoi, parce que l'équipe là, a été formidable. Et c'est des émotions qui sont indescriptibles, avoir cette pression sur 7 jours quand même. On avait la pression jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de petite course, il y a un niveau qui est vraiment, vraiment homogène là, pour une cinquantaine de coureurs. Donc c'est très difficile. Et c'est vrai que le continent africain ont quand même des ressources. Ils sont vraiment vaillants, ils nous ont attaqués jusqu'à ce qu'ils soient morts.
Le Français Geoffrey Soupe, vainqueur de la Tropicale Amissa Bongo. 4 coureurs africains sont dans le top 5, une première en 16 éditions. C'est le Danois Alexander Salbi qui a remporté la dernière étape courue dans les rues de Libreville. Il a devancé l'Érythréen Henok Mouloubran et le Russe Sergei Rostov-Sef.
Basketball pour finir ici en NBA. Giannis a planté 50 points la nuit dernière.
Gianni Antetokounmpo a inscrit 50 points lors du succès 135-110 des Bucks contre les Pelicans. Le Greek Freak répond ainsi au pivot des Sixers, Joel Embiid, un de ses rivaux pour le titre de MVP, qui a réussi une masterclass à 47 points la veille contre Denver. De son côté, Ja Morant, auteur d'un triple-double, 27 points, 15 passes décisives et 10 rebonds, a permis à Memphis de renouer avec la victoire contre Indiana, 112-100 après 5 défaites. Cleveland a pour sa part remporté son succès le plus aisé de la saison, 122-99 face à des Clippers.
dépourvus de leurs deux stars Kawhi Leonard et Paul George. À Charlotte, les Hornets ont infligé une première défaite en 4 matchs à Miami, 122-117.
Page de sport VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. C'est demain que le pape François arrive à Kinshasa pour une visite de 3 jours en République démocratique du Congo. Eddie Sango a joint, dans la capitale congolaise, le cardinal Fridolin Amongo, archevêque de Kinshasa.
Le peuple congolais attend l'arrivée de sa sainteté, le pape François, avec impatience, avec enthousiasme et surtout avec espérance. Et cela par rapport à la situation que le peuple congolais est en train de vivre. Le pape vient visiter un pays pratiquement en guerre. Il vient à la rencontre d'un peuple qui souffre de conflits armés, notamment à l'Est, avec des guerres à répétition, beaucoup de morts, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont jetés dans la rue comme des animaux traqués. La crise économique qui fait que le Congolais ne mange pas à sa faim. La crise sociale avec tout ce que cela comporte comme conflits entre les personnes, etc. Donc le pape vient trouver ses peuple dans cette situation-là et son message, comme le thème de sa visite l'a si bien indiqué, tous réconciliés en Jésus-Christ. Le peuple attend de cette visite que ça puisse vraiment l'aider à se réconcilier avec Dieu, à se réconcilier avec lui-même, avec ses frères et sœurs.
Le pape ne va pas dans l'Est selon le programme qui a été publié, mais c'est plutôt dans l'Est qu'il y a plus de souffrances avec la guerre. Est-ce que c'est seulement pour des raisons sécuritaires qu'il n'y va pas ou il y a autre chose? Ou va-t-il trouver un palliatif pour le peuple de Dieu, les Congolais qui sont plutôt dans l'Est de la RDC?
La raison est principalement sécuritaire. Alors devant cette situation qui a créé beaucoup de désespoir dans le peuple à l'Est qui attendait vraiment cette visite du pape à Goma, les organisateurs ont prévu la venue à Kinshasa d'une délégation. Et il y a une délégation qui vient de Bunia, de Beni, de Goma, de Bukavu et de Uvira qui va rencontrer le pape au nom de tous nos frères et sœurs à l'Est et qui souffrent. Et ils exprimeront leur situation au pape qui a aussi prévu un mot à leur endroit.
Les voyages du pape en RDC s'effectuent dans une année électorale en RDC. C'est en décembre qu'on aura les élections présidentielles, législatives et les autres. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ça va servir aux fins politiques des uns et des autres?
Ce n'est pas ça la finalité. Le pape ne vient pas pour cette raison-là politique, même si ça profite à ceux qui sont au pouvoir, mais le pape vient à la rencontre du peuple congolais, tout le peuple congolais, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et il vient le rencontrer dans leur situation de souffrance. Voilà pourquoi nous estimons que cette visite pourrait être un moment d'encouragement et de réconfort moral et spirituel pour un peuple qui souffre. Que ce message du pape puisse nous aider à bien organiser ces élections pour que ce soit des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles, des élections inclusives, afin que le meilleur puisse gagner et se mettre résolument au service du peuple congolais qui en a le...
C'était le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Au Burkina Faso, l'un des plus grands marchés, le marché de Sankara-Yaré, a été incendié hier. Plusieurs centaines de boutiques sont parties dans les flammes. Les mobiles de l'incendie ne sont pas encore connus, mais déjà on pointe du doigt des explosifs utilisés dans les mines. Le gouvernement a promis l'ouverture d'une enquête. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le gouvernement a déploré l'incendie du marché de Sankariare dans l'arrondissement numéro 2 de la commune de Ouagadougou, l'un des plus grands marchés de la ville. Selon les premières informations, peu avant 11h, dimanche matin, des explosions en provenance du marché ont été entendues, suivies d'un départ de feu, explique le communiqué du gouvernement. La suite a été un constat de désolation d'après Serge Poda, ministre du Commerce.
Près de 40% du marché incendié, beaucoup de pertes de marchandises. C'est un moment aussi pour nous d'interpeller les différents acteurs de ce marché à beaucoup plus donc de civisme. Il y a parfois des produits qui sont interdits à des stockages artisanaux, mais que des acteurs se permettent et se lancent dans ces situations donc de commercialisation de produits qui ne sont pas autorisés dans un marché de ce type.
Une délégation gouvernementale s'est rendue sur place ce lundi. Le lieutenant-colonel Daba Naon, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers, explique.
À l'arrivée des premiers engins, nous avons pu constater effectivement qu'une partie du marché, notamment la partie centrale, il y avait des fumées qui se dégageaient dues à l'explosion qui a eu lieu. Et vu la rapidité avec laquelle le feu s'est développé, la moitié du marché, qui compte environ 700 à 800 boutiques, a donc subi la propagation de l'incendie. Au regard donc du sens du vent, il y a beaucoup de dégâts matériels. Ceci est dû effectivement au fait que c'est un dimanche, le marché était fermé et il n'y avait pas d'affluence.
Le gouvernement a salué la promptitude de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, des autres forces de défense et de sécurité et de toutes les personnes de bonne volonté dont la mobilisation immédiate a permis de sécuriser le site et maîtriser l'incendie aux environs de 14h40. Ce commerçant salue le travail des pompiers.
Les flammes ravageaient avec une certaine intensité qui dépassait la force des soldats de feu. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont pu nous aider. Vraiment, nous leur disons merci.
Les autorités affirment qu'aucune perte en vie humaine ni de blessés n'a été enregistrée. L'incendie a cependant causé d'importants dégâts avec plusieurs centaines de boutiques parties en fumée. Un autre commerçant affirme qu'il y avait des stocks de produits explosifs utilisés dans l'exploitation des mines au sein du marché.
Ce qui a commencé ça, c'est ceux qui vendent le produit là. C'est le truc là qui est calaté là-bas. C'est ça qui a provoqué le problème du marché là. De l'or là ou bien quoi, là, ce qu'on fait, les mules, c'est ça. Parce qu'il y en a ça dans les marchés en pareil.
Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'enquêtes par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame et situer le cas échéant toutes les responsabilités. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Tunisie, le Front de salut national, une coalition d'opposants, appelle à former un front uni politique et syndical pour faire partir le président Kais Saied du pouvoir après le deuxième tour des législatives d'hier dimanche, marqué par un taux d'abstention record 11,3%. Le premier tour avait déjà été marqué par une abstention de près de 90%, un record depuis l'avènement de la démocratie dans le pays, berceau du printemps arabe. Cela veut dire que près de 89% de Tunisiens ont refusé de participer au processus politique de M. Saied, soutien Ahmed Nejib Chebbi, président du Front de salut national. L'élection de 131 députés représente l'ultime étape des réformes imposées depuis 18 mois par le président Kais Saied pour revenir à un système hyper-présidentialiste. Yacouba Ouedraogo a joint à Tunis Mourad Selami, journaliste indépendant.
Pour comprendre ce tour, il faut comprendre un peu l'évolution de la chose politique en Tunisie. En 2011, ils étaient 51% à voter. En 2014, ça a déjà reculé un peu à 38%. En 2019, on sent que les citoyens commencent à rejeter les échéances politiques. Le taux de participation était déjà à 29%. Et le 25 juillet 2022, pour la vote de la nouvelle constitution, ben il y avait aussi 28 ou 29%. Pour le décembre 2022 et janvier 2023, ben le taux a chuté carrément à 11%. C'est l'un des symptômes du rejet de la variante parlementaire de ce nouveau régime. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, le fait qu'une bonne partie de la classe politique a boycotté ces échéances électorales. Et la troisième, c'est qu'il n'y a pas de financement.
Ce n'est donc pas un désaveu pour le président Kais Saied.
Le vote en faveur du président Kais Saied en 2019, il faut comprendre en deux temps. le premier temps, lors du premier tour, il n'avait obtenu que 19%. Lorsqu'il a été élu au deuxième tour avec 77% des voix, c'est plutôt un rejet de l'autre candidat plutôt que qu'un vote en faveur de Kaysaï. Kaysaï n'a jamais eu de programme électoral. Il y a eu aussi une inscription automatique des électeurs. Du coup, les 11%, c'est par rapport à un nombre plus élevé de votants.
Il y a un front du salut national qui est né, qui regroupe certains partis politiques d'opposition, qui appellent d'autres partis politiques d'opposition, ainsi que la société civile et la puissante centrale syndicale UGTT, à faire un front uni donc pour faire partir le président Kais Saïd. À quoi faut-il s'attendre dans les jours à venir en Tunisie?
Si on devait s'attendre à quelque chose en Tunisie, c'était lors des festivités du 14 janvier, marquant le 12e anniversaire de la Révolution. Les Tunisiens s'attendaient à des manifestations. Ce front de salut disait qu'il allait renverser le président. Ben, on a assisté à 3 manifestations différentes, séparées. L'opposition n'a même pas réussi à s'unir sous un même étendard. Donc, on n'espère pas une solution de la part du Front de Salut. La proposition de l'UGTT avec les avocats et la Ligue des droits de l'homme et le Forum économique et social, ça, c'est une proposition socio-économique. Là, c'est la société civile. Donc, ils ont eux aussi écarter les partis. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le poids suffisant pour contraindre le président à accepter leur proposition? Honnêtement, je ne vois pas.
Mourad Selami, journaliste indépendant en Tunisie. Ici aux États-Unis, les appels à la réforme de la police se multiplient après que 5 policiers de Memphis, dans le Tennessee, ont été filmés en train de battre un homme qui est mort 3 jours plus tard. Il n'y a pas encore de consensus parmi les législateurs américains sur la façon d'empêcher davantage de bavures policières. Veronica Balderas Iglesias de la VOA a fait le point, le récit avec Michel Joseph.
Le 7 janvier, 5 policiers, tous africains-américains, ont voulu arrêter, après une infraction routière, Tyree Nichols, un africain-américain de 29 ans. D'après les vidéos de son arrestation rendue publique vendredi, les agents l'ont d'abord arrêté et violenté. On entend la voix de Nichols sur la vidéo en train de crier en appelant sa mère. Puis il s'est enfui, mais est rattrapé plus tard. Les policiers l'ont roué de coups. Hospitalisé, Tyree Nichols est mort 3 jours plus tard. Les 5 agents inculpés ont été licenciés la semaine dernière. Comment aller de l'avant après la mort de Nichols? C'est ce que les militants et législateurs américains tentent de déterminer. Lors de son passage à l'émission This Week sur ABC, l'avocat de la famille, Ben Crump, a souligné la nécessité de s'attaquer à ce qu'il appelle un préjugé implicite dans la culture policière aux États-Unis.
I believe it's part of the institutionalized police culture.
Peu importe que les officiers soient noirs, hispaniques ou blancs, je crois que cela fait partie de la culture policière institutionnalisée qui fait qu'ils se sentent en quelque sorte autorisés à utiliser ce type de force excessive et de brutalité contre des personnes de couleur.
Lors de l'évaluation des mesures concrètes pour prévenir la brutalité policière, le sénateur démocrate Dick Durbin a déclaré à ABC qu'un débat national est nécessaire.
Interdire les étranglements, traiter de l'interdiction des fouilles sans mandat, traiter de l'accréditation des services de police. Il est nécessaire que nous fassions toutes ces choses, mais ce n'est pas suffisant.
Tout en soulignant que tous les policiers ne sont pas à blâmer, le représentant républicain Jim Jordan a partagé son point de vue dans l'émission Meet the Press de NBC sur les appels à la réforme de la police au niveau fédéral.
J'ignore si une formation ou une interdiction quelconque aurait pu... Il n'y a pas eu d'étranglement à Memphis. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est juste continuer à battre M. Nichols. Donc je ne sais pas si c'est la réponse.
Interviewé sur Good Morning America, Derek Johnson, le président de la NAACP, la plus ancienne et la plus grande organisation de défense des droits civiques du pays, a proposé de trouver des approches différentes pour régler le problème.
Les agences doivent être formées à la désescalade, mais nous devons également renforcer le financement du soutien à la santé mentale.
L'affaire trouve un écho particulier dans un pays fortement marqué par la mort de George Floyd en mai 2020 et les manifestations Black Lives Matter contre le racisme et les violences policières qui avaient suivi.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.